Avec l'association Ludonirique, le lien se crée autour du jeu. Samedi 20 janvier, rendez-vous à l'Alcazar de Sisteron pour une journée jeu en famille. Nicolas, l'un des membres actifs de Ludonirique, répond aux questions de Chris Alessandri.
Nicolas, vous êtes le fondateur de l'association Ludonirique. Alors à la base, une association fondée sur le lien autour du jeu. Mais c'est une aventure qui a commencé il y a quelques années, c'était en 2014, et vous êtes du côté de Nice à ce moment-là.
Ma compagne était là-bas, et c'est elle, avec trois de ses amis, qui ont fondé l'association. Moi, j'étais pas encore présent là-bas, donc c'était deux éducatrices de jeunes enfants, une éducatrice spécialisée et une professeure documentaliste, qui ont créé l'association afin de créer du lien par le jeu. Et à l'époque, elles faisaient des événements dans les bars où elles incitaient les gens à venir se rencontrer et s'asseoir les uns avec les autres sans se connaître à la base pour pouvoir se découvrir autour d'un jeu qui a l'avantage de ne pas avoir d'enjeu, puisqu'on est simplement en train de faire ça et on n'est pas obligé d'être sur la discussion politique ou sur une discussion qui risque de créer des tensions, et on peut se découvrir parfois sur quelque chose d'assez léger qui permet de se découvrir des affinités.
Pourquoi cette volonté, donc, Gwenaëlle, vous, Nicolas, cette volonté de créer ce lien autour du jeu avec simplement le but de s'amuser, d'être interactif?
Alors le but, il n'est pas tant de s'amuser, ça c'est plutôt un effet annexe positif. Le but, c'est de se rencontrer. C'est vraiment la richesse du lien, de rencontrer l'autre, de se poser autour de cette activité où, encore une fois, il n'y a pas d'enjeu, on n'a pas de risque majeur, je veux dire, à part perdre une partie, ou gagner une partie, ou que l'autre gagne, ou que je gagne, il n'y a rien d'autre que je rencontre l'autre, je passe un moment avec lui. Et, encore une fois, dans les autres effets positifs, il y a aussi toutes les compétences positives qui se mettent à côté. Développement cognitif, compréhension, apprentissage de la langue, apprentissage de plein de compétences qu'on n'imagine pas, sociales, linguistiques, mathématiques, géographiques, culturelles, sur plein de points.
Vous avez décidé ensuite de poursuivre cette belle aventure à Sisteron. Comment ça s'est déroulé et de quelle façon vous êtes arrivé à Sisteron?
Ça a été très bête en fait. C'est un petit bonhomme qui est né à Nice avec la belle famille qui était à Sisteron ou à côté à Laragne.
C'est Johan?
C'est Johan, tout à fait. Et donc on s'est rapproché de la belle famille qui nous a soutenus grandement dans cette épreuve un peu, puisqu'on a un petit bonhomme qui dormait et qui dort toujours assez mal. Et tout simplement, on a choisi cet endroit où on a vu qu'il y avait plein de trucs intéressants à faire, qui était une ville d'une certaine taille pour pouvoir avoir des services sur place, c'est bête, mais avoir accès à des commerces, avoir accès à une ville qui bougeait un peu plus que peut-être dans les vallées où il se passait un peu moins de choses et où il y avait plus d'énergie à mettre pour pouvoir avoir accès aux services.
Ludonirique, donc on le disait, Gwenaëlle, c'est du côté donc des Alpes-Maritimes, hein, qu'elle était auparavant. Donc vous arrivez sur Sisteron, il faut tisser des liens. De quelle façon vous avez tissé ces liens sur cette ville dans les Alpes de Haute-Provence que vous ne connaissiez peut-être pas très bien?
Alors en fait, ça a commencé par un besoin qui nous appartenait à nous. Nous, on est tous les deux du monde du jeu. Elle est éducatrice de jeunes enfants et elle était responsable d'une ludothèque. Moi, j'ai bossé dans plusieurs ludothèques autre part, à Nice, à Paris et à différents endroits, en Inde aussi d'ailleurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte, arrivé en septembre, qu'il y avait peu de propositions pour un petit, que les parcs étaient humides et froids. Et en fait, on s'est dit que ça serait bien d'avoir un espace pour se poser avec le petit. Et c'est de là qu'est née une des premières choses qu'on a fait, qui a développé plus l'association, c'est qu'on a lancé les cafés qu'on a appelés à l'époque Café Poussette, qui sont devenus par la suite les cafés parents, qui sont maintenant les cafés famille, donc qui nous accompagnent avec l'âge du petit qui a grandi et notre disponibilité qui a grandi aussi. Et qui a diminué par le travail, mais qui a augmenté par le petit qui allait à l'école.
Qu'est-ce qui se passe dans ces cafés poussettes?
Ah, donc les cafés poussettes, c'est un espace d'accueil pour les parents, où les gens sont les bienvenus avec tout ce qui les accompagne, les moments de joie, les moments de galère comme la fatigue, les moments de difficulté dans tout ce qui est lié à la parentalité. On crée un espace pour la petite enfance, qui fait que les gens qui viennent avec un enfant ont un espace pour eux, mais on insiste sur le fait qu'ils sont les bienvenus, même sans enfants. Ainsi, on avait des parents qui déposaient les enfants à la crèche et qui venaient juste pour se retrouver entre parents, prendre un café, papoter, rigoler ou parfois même se plaindre.
Cette ambiance, vous la créez également dans un restaurant?
En fait, c'est là où ça s'est lancé, effectivement. Ça a été dans le restaurant En Catimimi, qui est dans la rue de Provence à Sisteron, et où on l'a développé pendant un certain temps. Puis on a été hébergé par une autre structure, la maison paroissiale, en fait, qui nous a accueillis par la suite.
Vous êtes près du stade?
Exactement, ouais. C'est ça, juste à côté, à peu près à 50 mètres de l'entrée du collège-lycée. Donc un endroit qui nous a accueillis pour plein d'événements. Et depuis, on a aussi créé les mercredis jeux, où une fois par mois, peut-être plus bientôt, on accueille les familles là pour un événement qui est de 13h30 à 18h, où on peut venir se retrouver, jouer, prendre un goûter, papoter ensemble, ne pas jouer. C'est très important pour nous aussi, cette possibilité. Une chose qu'on essaye de promouvoir, qui est le jeu libre, qui consiste à laisser la personne faire ce qu'elle veut avec le jeu. Ça veut dire que quand on a une table pour un jeu, on essaie d'avoir une chaise supplémentaire où les personnes peuvent choisir de ne pas jouer. Ou en tout cas de croire qu'elles ne jouent pas. Parce que quand elles sont assises à côté, souvent elles regardent, elles se posent des questions et parfois au bout d'un moment, elles se mettent à participer. Et parfois elles rentrent, parfois pas, dans la prochaine partie ou d'autres choses.
On joue en regardant jouer, en fait.
Tout à fait. Il se passe toujours quelque chose. Parce que c'est un moment où on va pouvoir échanger, on va pouvoir discuter, on va pouvoir parler d'un truc qui n'a rien à voir avec le jeu. On va parler d'un besoin qu'il peut y avoir au niveau de la ville. Et ça crée des trucs chouettes entre les gens. Parfois, ça crée de l'engagement de personnes qui ont envie de nous rejoindre pour participer à des événements, à prêter la main sur porter des choses, à prêter la main pour ranger, pour nettoyer, mais aussi parfois pour animer des jeux et créer du lien encore plus avec d'autres personnes.
Nicolas, ludonirique, ça interpelle tout de suite. On peut connaître l'origine de ce nom que vous avez apporté à ce que vous avez créé?
Et donc les quatre fondatrices, dont Gwenaëlle qui est la présidente actuelle, elles ont choisi d'appeler ça pour créer le rêve de jeu. Ludo, donc la racine latine ou grecque, je ne sais plus, pour le jeu, et onirique, qui se sont réunis en un seul mot.
Quels sont les jeux à l'heure actuelle qui prédominent, on va dire, sur les rencontres que vous proposez?
Voilà, c'est très dur comme question parce que... On en a beaucoup et selon le type de public, ça change beaucoup. Alors, je vais en dire rapidement qui me viennent en tête. Pour les petits, disons vers 5 ans, il y a Pic Plume qui me vient en tête, qui est une espèce de memory, un peu jeu de loi, qui a un avantage énorme, c'est qu'il permet à des tout petits de mettre des raclées à leurs parents et aux adultes. Parce que ça se base surtout sur la mémoire et qu'ils sont bien meilleurs que nous. Je pense à Dorf Romantique, un petit jeu de placement de paysage qui plaît énormément et qui permet même de jouer avec des petits en adaptant un peu les règles. Et récemment, on a eu beaucoup de surprises avec un jeu sur Darwin, qui s'appelle Sur les traces de Darwin, qui est d'une beauté incroyable, dans lequel on développe quelque part la théorie de Darwin en mettant des cartes d'animaux un peu partout qui représentent le voyage qu'il a fait à l'époque, en 1800 et quelqu'un. Voilà, je pense surtout à ça. Après, il y a d'autres jeux pour les joueurs peut-être parfois plus avancés où on arrive à se retrouver. Des jeux de plis, entre autres, où on se retrouve avec des personnes parfois plus âgées ou qui aiment beaucoup les jeux de plis, comme The Crew, hein, donc l'équipage en anglais, dans lequel on joue avec des jeux de plis, mais où on casse les stéréotypes du jeu de plis puisqu'on est complètement coopératif.
Comment vous faites pour vous tenir au courant de ces jeux qui existent? Vous partez en investigation, vous documentez, vous jouez vous-même?
Alors, il y a plusieurs choses. D'une part, on est en réseau avec les ludothèques françaises, parce qu'on est adhérent à l'association des ludothèques françaises. Régulièrement, on est en contact avec eux. On va plusieurs fois par an sur des festivals ou des salons dans lesquels on présente des nouveaux jeux. C'est l'occasion d'en découvrir et d'amener un peu de sang frais. On va dans des boutiques, bien sûr, comme celle de Sisteron, là, qui s'est créée au Ludique, avec lequel on a un échange, puisqu'il est adhérent de notre association, et on essaye de faire des partenariats régulièrement. Et également, on fait une veille, donc on s'intéresse un peu à ce qui sort. Il y a un site très intéressant qui s'appelle Gusenko, où ils font un travail incroyablement intéressant sur le jeu, sur des nouveaux jeux, mais aussi sur les théories du jeu, par exemple sur comment fonctionne le hasard, par exemple sur quels jeux prendre pour les fêtes, quels jeux sont actuellement tendance et comment choisir des jeux parfois.
Nicolas, au niveau des projets avec la ludothèque?
Donc au niveau de la ludothèque ludonirique, c'est le nom de l'association, mais c'est bien ludothèque. Les gros projets qui arrivent, il y a cette année donc le festival du jeu à la fin de l'année qu'on organise, on ne sait pas encore exactement quand, dès qu'on le saura, on communiquera. On organisera des ateliers sur le jeu vidéo et sur la sécurité numérique pour les parents-enfants, donc vraiment afin de sensibiliser les gens et de leur permettre d'avoir une proposition alternative et surtout de pouvoir jouer ensemble, parents et enfants, donc de ramener ça à la maison. Après, ça me semble intéressant d'en parler dans les gros projets, nous on rêve d'avoir un lieu à Sisteron pour pouvoir vraiment avoir une vraie ludothèque en dur. Et dans les projets un peu fous qu'on espère pour plus tard, ça serait avoir un triporteur électrique et une remorque électrique pour pouvoir faire des animations non seulement sur Sisteron, mais dans toutes les vallées autour.
Alors actuellement, là c'est un grand jour qui arrive pour Ludonirique, grand rendez-vous, ce sera le 20 janvier, ça se passe à Sisteron, à l'Alcazar. C'est toute une structure à laquelle vous n'êtes peut-être pas encore habitué que vous allez proposer.
Alors, au niveau de notre association, on n'en est pas habitué. Après, il se trouve que la présidente et moi-même, on a travaillé pas mal pour d'autres associations ou entreprises liées à l'enfance et aux jeux. Et on a participé à des gros événements. Moi, jusqu'à peu, je travaillais pour Ludambule à Gap, une grosse association de jeux. On a eu l'occasion de participer. Mais là, pour l'association, c'est vraiment un gros événement. On en a deux programmés avec le REAP, donc l'association qui soutient la parentalité en France, qui nous soutient et qui finance une bonne partie de ça, mais également la MSA et le département qui vont soutenir cet événement. Donc, a priori, ils ont cru dans notre proposition et ils nous accompagnent pour cet événement. Et un autre beaucoup plus gros qu'on va faire en juin, probablement au plan d'eau, ou on ne sait pas encore, mais en tout cas sur Sisteron, où il y aura du cirque, où il y aura encore la Turbo Ludo, la ludothèque de Château Arnoux qui vient, comme pour samedi, là, le 20. Bref, on essaye de faire grossir le monde du jeu et de promouvoir cette chose-là pour emmener les parents aussi à amener le jeu chez eux, puisqu'on fait du prêt de jeu également.
Pour survoler un tout petit peu la journée du 20 janvier, comment ça va se dérouler, les différentes animations que vous allez proposer?
Alors, comme plusieurs événements qu'on propose pour des structures, que ce soit des écoles, que ce soit des structures extérieures, associations, ou même pour les particuliers, pour les anniversaires par exemple, on va avoir des jeux qui vont être adaptés au public. On utilise actuellement le système ESAR, qui est un mélange de pédopsychologie et en même temps de documentalisme. Et ESAR, ça correspond aux jeux d'exercice. C'est les jeux beaucoup pour les petits à la base, où on fait de la répétition pour apprendre des choses. Ça peut être appuyer sur une substance pour sentir la texture. Ça peut être faire du bruit en appuyant sur un truc. Le jeu symbolique, ESAR, donc S, où on va, on va jouer à être quelqu'un d'autre. Ça peut être je joue à l'apparent, je joue à être le pompier, je joue à être quelque chose d'autre, ou alors je fais jouer un objet. Le jeu d'assemblage, où on fait des constructions qui vont jusqu'à faire des systèmes intégrés, mais ça peut être des cas plats. Et enfin, le jeu de règles, qui est le type de jeu le plus connu, les jeux de société, où on réunit tous les types, tout ce qu'on a pu apprendre avant pour en faire un jeu par la suite. Le Monopoly, le Trivial Pursuit, les jeux actuels comme le Ski-Jo qui a le vent en poupe ces dernières années. Bref, on essaye de faire des espaces qui touchent tous les publics, des tout petits jusqu'aux personnes âgées, en passant même par les handicaps, pour donner vraiment à jouer à tout le monde et permettre à tout le monde de se rencontrer.
Si on a envie de se renseigner, envie de vous rencontrer, de quelle façon est-ce qu'on fait ?
Alors, il y a l'adresse mail, ludonirik@gmail.com. Il y a le Facebook. Pour l'instant, j'avoue qu'on pêche beaucoup sur la communication. On a des groupes WhatsApp qu'on a mis en place pour communiquer aussi avec les adhérents. L'été dernier, on a créé un groupe parents motivés Sisteron pour pouvoir tenir informé des gens. C'est pas tant sur l'association, là, pour le coup, c'est vraiment permettre à chacun de dire OK, moi, je vais emmener mes enfants au théâtre à Château Arnoux à tel moment ou à Gap, si ça vous intéresse. Et comme ça, les parents sont au courant et ils peuvent se dire « Ah bah tiens, ça me donne une activité à faire ».
En ce qui concerne la journée du 20 janvier, au niveau des tarifs, c'est pas cher du tout.
Alors, ça fait partie des demandes aussi du REAP, c'est complètement pris en charge. J'ai pas envie de dire gratuit parce qu'il n'y a rien de gratuit. C'est pris en charge. Donc, il y a une partie qu'on va financer, nous, par les rentrées d'argent de l'association, que ce soit les adhésions ou les participations libres, mais également donc un financement. Donc, je vous parlais tout à l'heure du REAP qui fait partie de la CAF, de la MSA et de. Donc, c'est la Mutuelle Sociale des Agricoles, mais je crois que dans le coin, les gens connaissent pas mal. Et enfin, le département. On a plusieurs partenaires qui nous soutiennent. On a également l'Europe avec le financement leader qu'on a obtenu l'année dernière. Donc, plein de choses qui nous soutiennent. L'événement est gratuit.
Nicolas, Ludo Niric, on rappelle le rendez-vous pour ce samedi.
C'est de 10h à midi et de 13h30 à 17h, toute la journée de samedi à l'Alcazar. 06 61 94 37 29.
Pour tout renseignement.
Pour tout renseignement.